J'ai à cœur de vous partager aujourd'hui et peut-être dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement, mais j'étais en réflexion dernièrement, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est pas trop fort? Ça va? C'est parfait? D'accord. J'étais en réflexion dernièrement parce que, notamment avec le cours que tu enseignes sur l'éthique chrétienne où on est presque submergé par un tsunami de mauvaises nouvelles, des fois. Alors, elle est toute désolée, notre enseignante, parce que des fois, elle a l'impression qu'elle nous démoralise, mais c'est vrai que c'est le monde dans lequel nous sommes. Et s'agissant du débat d'idées, parfois, en tant que chrétien, on a du mal à notamment donner des arguments, mais aussi, pour nous ou pour d'autres, chrétiens, j'entends, on a du mal de garder nos convictions. Il est tentant de faire des compromis. Et donc c'est important de temps en temps de se poser la question et de se dire « Seigneur, comment faire pour tenir bon, pour garder le cap ?» Et nous savons qu'on est dans une période de l'histoire, je parle pour parler que de la France, où les gens s'éloignent de plus en plus des principes bibliques, de la volonté de Dieu. Et en même temps, il faut se garder, il faut se préserver et rester dans la vérité, et en même temps ne pas tomber dans un légalisme qui est par définition sans vie. Ce n'est que la vie de Dieu qui va pouvoir nous aider à garder nos convictions. Ce ne sont pas des doctrines simplement, même si la doctrine est juste. Vous pouvez avoir des chrétiens qui croient en des vérités bibliques, qui les interprètent très bien, mais qui n'ont pas la vie en eux-mêmes. Et donc nous avons besoin de Dieu, et pour que Dieu puisse opérer dans nos vies, il est bien des fois de retourner à certains fondamentaux, sachant en plus que il se peut très bien que certains d'entre nous traversent des persécutions, que ça soit dans notre pays ou ailleurs, si on est missionnaire ailleurs, mais aussi dans les prochaines années. Ce sera peut-être pas nous, notre génération, mais d'autres. Enfin, il serait pas étonnant que les chrétiens aient de plus en plus de mal à garder la liberté qui est la leur pour l'instant dans un pays comme le nôtre. Il ne faut jamais oublier, selon Romains 15, 4, que tout ce qui a été écrit, et là Paul se place du point de vue de l'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Donc le corps ou le cœur, je dirais, de la doctrine de l'Église se trouve bien entendu dans le Nouveau Testament. Néanmoins, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament doit nous servir. Et même, il va plus loin en disant « afin que nous possédions l'espérance ». Et une des manières pour tenir ferme, c'est d'avoir une espérance. Lorsque des combattants, alors que la situation est des fois très périlleuse, voire catastrophique, c'est l'espérance qu'ils ont en une cause, en je sais pas, un corps d'armée qui va les secourir, c'est l'espérance en la chance, en Dieu, c'est ça qui leur permet de continuer le combat. Sinon, ils se rendent, ils arrêtent et ils abandonnent le combat. Or, nous sommes appelés à ne pas abandonner le combat, à ne pas abandonner nos convictions et à garder vraiment une foi qui est ferme. Et pour ça, j'aimerais que nous relisions un extrait de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, qui est le chapitre sur les 10 commandements. Donc nous allons lire les 10 commandements, mais je vais m'attarder aujourd'hui que sur le premier. Mais c'est bien de se remettre un petit peu dans le contexte, et on va lire donc tout le passage. Ce passage contient 17 versets, Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Il est écrit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Donc voilà les 10 commandements que l'on peut diviser en deux classes, deux groupes en réalité. Vous avez les 4 premiers commandements qui sont des commandements en relation, qui se rapportent plutôt entre la relation entre Dieu et son peuple. Donc les 4 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Et les 6 derniers commandements, les 6 suivants, parlent de la relation avec nos semblables. Donc la relation avec Dieu doit engendrer de la part de Dieu un ordre qui est d'avoir de bonnes relations avec nos semblables au travers de ces 6 commandements. Donc ça nous parle en fait à la fois de la verticalité de notre vie spirituelle, la verticalité avec Dieu, entre le ciel et nous, qui sommes sur la terre, et l'horizontalité, notre relation avec ceux qui sont les images de Dieu, eux aussi, qui sont notre prochain et que nous devons respecter au travers de ces 6 commandements. Alors ça regroupe différentes classes de la société, la famille, les voisins, la communauté environnante, etc., etc. Mais le premier commandement, c'est le verset 3, Exode chapitre 20, verset 3, où il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est intéressant parce que cette phrase, ce commandement, il est écrit juste après le verset 2, par définition. Et au verset 2, il est dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et ensuite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Si on se remémore un petit peu ce qui s'est passé en Israël, le peuple juif était en Égypte, où le peuple égyptien adorait évidemment d'autres divinités que Dieu lui-même. À un moment donné, le peuple qui était en esclavage, s'est souvenu des promesses de l'Éternel, a crié à son Dieu, et Dieu les a délivrés et les a conduits en terre promise depuis 400 ans déjà, à Abraham et à ses descendants. Donc ce que Dieu est en train de dire là, c'est ceci, c'est moi qui t'ai délivré, et donc ne cherche pas ailleurs une délivrance. C'est moi qui t'ai délivré. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, vient après ce verset, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout ce qui n'est pas Dieu peut nous tenter, peut nous faire plaisir, peut nous combler pendant un temps, mais ça ne nous délivrera pas de nous-mêmes, ça ne nous délivrera pas de notre esclavage, ça ne nous délivrera pas du péché. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer du péché. En Jésus-Christ, il l'a fait. Nous avons cru et nous avons été délivrés de l'esclavage du péché et du jugement qui en résultait. Mais notre marche chrétienne aujourd'hui, le fait de continuer de s'engager vers Dieu et envers Dieu et de ne pas accepter d'autres idoles dans notre existence, a notamment pour raison première d'abord de rendre à Dieu ce qui lui est dû, parce que si on regarde un petit peu ce que Dieu a fait parmi l'humanité entre Genèse 3 et la naissance de l'État d'Israël, de la nation d'Israël, Dieu s'est beaucoup présenté comme le Créateur. Il est le Créateur qui doit être honoré, et ça reste vrai. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne le nombre de nos jours sur la terre, qui nous donne la santé, qui nous donne tous les bienfaits. Donc il est le Créateur, il nous a créés, il a créé tout ce qui est autour de nous, il a créé les êtres que nous aimons, et donc nous devons le respecter. C'est lui qui a créé nos parents, c'est lui qui a créé nos amis, c'est lui qui a créé l'Église, c'est lui qui a créé les êtres les plus chers que nous puissions avoir. Et donc, on doit le remercier pour cela, et il est le Créateur, et nous devons l'honorer pour cela. Mais il y a une autre raison aussi, et c'est là où il y a un peu un petit, pas changement, mais un complément qui intervient ici, c'est que Dieu de plus en plus va se présenter comme le libérateur, et il va choisir la nation d'Israël pour montrer cette vérité. C'est lui qui va délivrer en permanence la nation, et c'est Jésus-Christ qui va délivrer l'humanité tout entière lorsqu'il va venir. Et donc, lorsqu'on oublie celui qui nous a délivrés, on oublie le Créateur. Et donc, il faut rester cohérent, adorer le Créateur et adorer le Libérateur, c'est la même personne. C'est le Créateur en Jésus-Christ. N'oublions pas que le monde, l'univers a été fait par la parole de Christ. Et donc, une fois qu'on a accepté ça, que nous avons accepté le fait qu'il est notre libérateur, on va continuer de garder une communion avec lui et ne pas permettre que d'autres choses interfèrent dans cette relation merveilleuse entre le Créateur libérateur que Dieu est dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu veut avoir la première place, en disant « je suis le Créateur, mais aussi je suis ton libérateur », en d'autres termes, et c'est un acte d'amour. Parce que Dieu ne se trompe pas, Dieu n'est pas un but de lui-même, il roule pas des mécaniques, il essaye pas de montrer qu'il est ce qu'il n'est pas. Il est, et quand il dit quelque chose, c'est vrai. Et donc, pour notre bien, Dieu nous demande de continuer de lui faire confiance. Parce que c'est lui qui peut nous délivrer de toutes nos turpitudes. Et c'est un acte d'amour. On pourrait voir ce premier commandement comme étant quelque chose, c'est « Oh là là, qu'est-ce que Dieu est exigeant, il faut... » Et on n'a pas le droit à une autre idole ? Non. Mais cette rectitude, ce côté noir et blanc, cette exigence n'est pas de l'intransigeance. Cette exigence est un acte d'amour en réalité, parce qu'il est la bonne personne pour les êtres humains. Il est la meilleure personne qui soit. Donc, c'est un acte d'amour. Si moi, je viens vers vous, je peux avoir mes qualités, je peux avoir quelques, comme tu en as parlé tout à l'heure, des charismes, je peux vous aider. Mais venir vers vous en disant, vous savez, il n'y a que moi qui peux vous aider, ce serait un but de ma personne, parce que c'est un mensonge. Mais s'agissant de Dieu, c'est pas vrai. Ce n'est pas un mensonge. Parce que Dieu aime l'humanité. Dieu veut le meilleur pour l'humanité. Dieu sait tout, Dieu est omniprésent, il est omniscient, il a un plan parfait, il a un appel sur la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est normal que le Dieu qui ne ment pas, qui est sans péché, puisse dire « c'est à moi qu'il faut s'adresser, c'est moi la solution, je suis votre Dieu, je suis votre libérateur ». Et malheureusement, c'est pas toujours ce que Israël a fait. Israël, très souvent, s'est tourné vers les idoles et a oublié le Créateur, a oublié celui qui les avait appelés et avait fait d'eux un peuple particulier, et a oublié leur libérateur. Et ils se sont asservis, ils sont revenus en esclavage en se soumettant à certaines idoles. Et donc, ce que l'on voit là, c'est que ce thème est, après, en permanence réitéré dans les Écritures. En permanence, Dieu va insister sur ce point quand il va s'adresser à Israël. Souvenez-vous quand vous étiez en Égypte. À chaque fois, il va faire référence à ça et il va encourager le peuple à se tourner vers lui et donc vers la vérité. Vous savez, quand on regarde ensuite dans la Bible, notamment dans le livre de l'Exode, un peu plus loin, vous n'êtes pas obligé de regarder maintenant, notez simplement les références. Mais on voit que Dieu va réitérer cet ordre de ne pas se tourner vers des idoles. En Exode 22:19, il va dire « Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être exécuté. » Exode 23:13, « Vous n'invoquerez jamais des dieux étrangers, qu'ils ne soient même pas nommés parmi vous. » Exode 34:14, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un dieu jaloux. » Et là, il faut s'entendre sur le mot jaloux, parce que la jalousie peut être un péché. Mais la preuve, c'est que dans les commandements, il est dit qu'on ne doit pas convoiter. Donc il y a une forme de jalousie quand on convoite le bien d'autrui. Mais là, c'est une jalousie aimante. Prenons l'exemple d'un couple. Si vous avez, et je prends l'exemple d'un homme vis-à-vis de sa relation avec son épouse, si c'est un mari jaloux dans le sens charnel du terme et qui à chaque fois que son épouse regarde, je ne sais pas, quelqu'un du sexe opposé et qu'il se met en colère, ça c'est une jalousie qui est idiote, ça n'a pas de sens. En revanche, là où il y a une bonne jalousie, c'est si le mari, idéalement, peut-être qu'il n'existe pas hein, cet homme-là, mais imaginons, si ce mari sert son épouse, se consacre à elle, prie pour elle, lui rend service, est intègre, respecte sa parole, amène la pensée de Dieu à la maison. Bref, s'il fait tout ce qu'il faut pour aimer son épouse comme Christ aime l'Église, il a le droit de se dire « Moi, je suis mieux pour toi que ne peut l'être un amant d'un soir. Je suis quelqu'un de beaucoup plus crédible parce qu'il est avantageux pour toi que tu restes avec moi. » Vous voyez la chose ? Vous voyez la différence ? Et ça, c'est un être pécheur qui penserait comme ça, mais qui aimerait servir Dieu et servir les autres. Mais s'agissant de Dieu qui, lui, n'est pas paranoïaque, ne manque pas à sa parole, il est fidèle, il n'est jamais infidèle, il est puissant, c'est d'autant plus logique que Dieu puisse dire « Non, non, moi je suis jaloux parce que je pense que je suis le meilleur pour vous. » Qu'un homme dise « Je suis le meilleur, chérie. Hein, » Je ne vais pas citer son nom, mais même si c'est public, mais il y a un homme politique qui a été président de la République en France, qui paraît se lever tous les matins et disait à sa femme « Alors, hein, tu ne regrettes pas de m'avoir épousé ?» Bon, je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, hein, de prétendre être le sauveur de son épouse même. Mais s'agissant de Dieu, il pourrait nous le dire. « T'es content de m'avoir rencontré. T'es content de me connaître. » T'es content de ce que j'ai pu faire pour toi. Et t'es content de ce que je vais permettre dans ta vie, j'espère. Alors des fois, on n'est peut-être pas toujours d'accord. Mais on devrait. Parce que nous croyons que notre mari, je dirais Christ, le mari de l'Église, est le meilleur aimant qui soit. Et donc nous pouvons lui faire confiance. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on se tourne vers d'autres idoles. Alors ça, là, à l'époque, c'était des idoles... je dirais, matérialisé par des statues et des rituels et des sacrifices qui étaient proposés à ces idoles. Aujourd'hui, dans une société, très sécularisée, et encore, en cachette, il y a beaucoup encore d'animisme ou de superstition dans notre société, mais en théorie, on est des gens raisonnables, hein, on n'est pas superstitieux, oui, mais il y a d'autres idoles que sont le matérialisme, l'égoïsme, la confiance en soi, la notion de liberté, mais la mauvaise liberté. Et on est prêt à faire des sacrifices pour ces idoles-là. Il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie des heures entières pour obtenir quelque chose. Ils sont pas heureux pour obtenir ces choses-là, mais c'est une course folle. Le matérialisme rend les gens esclaves. On leur fait croire en plein de choses. Et la situation que nous traversons en ce moment montre justement que si on retire ces choses-là aux gens, eh ben ils ont un problème dans leur âme. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, faut bien vivre. Absolument, je suis d'accord, mais vous savez, on n'a pas toujours vécu comme on vit, on peut vivre autrement. Donc, et comment les gens faisaient avant, lorsqu'ils n'allaient pas au bout du monde ? Vous pouvez discuter avec un chrétien du Moyen-Âge, les Maldives, ça ne le faisait pas rêver, ils ne savaient même pas ce que ça existait. Et que ça existait. Et ça voulait pas dire pour autant que ces gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, qu'ils n'étaient pas bénis, qu'ils ne pouvaient pas louer Dieu en restant dans leur village toute leur vie. Donc vous voyez, c'est quoi la réalité? C'est quoi la vie? C'est quoi la vérité? Et donc, des fois, Dieu rappelle les choses pour nous montrer qu'il y a des choses essentielles qui consistent notamment à adorer Dieu et lui seul et ne pas permettre que d'autres choses viennent interférer dans la relation. En Ésaïe 45, hein, je continue, verset 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » S'il y a quelque chose d'autre qui fait concurrence à Dieu, ce n'est pas une bonne chose pour notre âme. Ésaïe 45, 14, « C'est chez toi seulement qu'est Dieu et il n'y en a point d'autre. Les dieux sont néants. » Vous savez, souvent les gens dépriment parce qu'ils ont comme idole des choses qui sont synonymes de néant. Et ils sont un peu comme l'Ecclésiaste et ils se disent « Vanité, tout est vanité ». Ils se disent « Je suis chrétien et à quoi bon ?» Un chrétien qui dit « Je suis chrétien et à quoi bon ?» c'est quelqu'un qui a pas une très bonne relation avec Dieu. Et c'est pas la faute de Dieu. Je ne pense pas que ce soit la faute de Dieu. Je suis sûr même que ce n'est pas la faute de Dieu. Et donc c'est là où on a besoin d'avoir des remises en question et de se poser des questions et c'est de se dire « Est-ce que j'accepte la jalousie de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'accepte l'exclusivité de Dieu? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un mari, une épouse, j'aime pas mes enfants, j'aime pas les frères et sœurs, que je n'ai pas des activités de loisirs. J'ai le droit d'avoir ça. Mais la première place et l'engagement premier, ce sera Dieu. Avec lui, je ne ferai jamais de compromis. Et c'est ça que Dieu demande. Et de temps en temps, il est bon de se rappeler ces vérités-là, parce que souvent, on va regarder à des choses à faire, à ne pas faire, qu'est-ce que Dieu me donne. Mais en réalité, on rentre dans un légalisme, parce que ce n'est pas lié à la relation avec Dieu. On ne prend pas plaisir à obéir à Dieu, parce qu'il n'a pas la première place. La seule chose, c'est que on louvoie, ou alors on a peur de lui. Voyez, où on vit dans la culpabilité. Mais la vraie liberté, c'est de se dire, j'ai été délivré de moi-même, pour faire simple, et maintenant je suis attaché, je suis esclave de Christ, et je pose cette question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et à partir de là, je vais avoir un repos dans mon âme. Dieu va être fidèle, il va faire quelque chose dans mon âme, peu importe les vicissitudes de la vie, peu importe l'opposition, les craintes qu'il peut y avoir autour de moi, ou qui peuvent m'amener à avoir peur, je reste dans le repos de Dieu tout simplement parce que j'ai décidé de suivre Dieu et Dieu seul. Et le reste viendra par-dessus. Et imaginons que Dieu ait dit à Israël, vous savez, des fois c'est bien de se poser des questions contraires ou des aberrations pour montrer un petit peu la réalité des choses, pour la visualiser. Imaginons que Dieu délivre son peuple d'Égypte, traverse le désert, tout ça, ils arrivent en Canaan, et puis dit « Bon, ça va, tout est bien, vous êtes bien installés, parce que moi je m'en vais, je vais ailleurs, faites ce que vous voulez. » Ça n'aurait pas de sens. Mais on peut adorer Moloch, « Oui, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. » Quel Dieu ce serait? Ça n'aurait pas de sens. Il ne nous aurait pas délivré d'Égypte, pour ensuite nous accepter qu'on se rende esclave d'autres divinités. S'il nous a délivrés pour nous emmener à un autre lieu, c'est pour que lui ait la première place et qu'on ait le meilleur dans l'existence. Ben, c'est exactement la même chose avec la vie chrétienne. Pourquoi Dieu nous demande de faire certaines choses et pas faire certaines choses? Mais c'est pour améliorer notre ordinaire. C'est parce qu'il veut que nous ayons la meilleure vie possible. Et c'est possible quand on est attaché à l'amour de Dieu que nous avons reçu et qui a été déversé dans nos cœurs, selon Romains chapitre 5. Et donc, quelqu'un, un Dieu qui nous dirait « faites ce que vous voulez », ça n'aurait pas de sens. Et est-ce que le matérialisme nous délivre de nous-mêmes? Non, le matérialisme peut nous faire rêver, de nous faire oublier certaines choses pendant quelques heures. Le téléphone peut faire oublier nos problèmes de temps en temps parce qu'on va passer une heure dessus à zapper, à faire, voilà, et on pense à autre chose pendant ce temps-là, mais ça ne nous délivre pas nous-mêmes. Et peut-être même que ça nous aliène encore plus. Donc, quelle vie nous voulons avoir? D'accord? Est-ce que je vais mourir avec mon téléphone? Non. Mais je vais mourir avec tout ce que j'aurai vécu avec Dieu. C'est ça le plus important. Et si le téléphone est un outil pour ça, tant mieux. Mais sinon, Dieu aurait amené ces gens en terre promise en disant « faites ce que vous voulez » et ils auraient vécu comme les autres païens aux alentours. Et d'ailleurs, quand ils ont désobéi à Dieu, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Vous savez, si on transpose un petit peu, on se rend compte que c'est des fois un peu la même chose. On peut être chrétien et pas faire la différence dans notre société. Et là, je vous passe sous silence, est-ce qu'on est régénéré ou pas? Mais en tout cas, de ceux qui se disent chrétiens, vrais ou pas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de compromis par rapport à la vérité, où on en vient à tolérer le péché, et même en faire des doctrines, soi-disant chrétiennes, une réinterprétation théologique de la Bible pour justifier les actes impies. Et donc, dans certaines pseudo-églises, on en vient même à bénir les mariages homosexuels. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que non seulement les gens ne respectent pas la volonté de Dieu, mais ça veut dire que Dieu n'a pas la première place. Parce que lorsque Dieu a la première place, on n'adore pas ce que les autres adorent. On n'est pas de connivence. Alors, on dit, oui, mais c'est trop dur. C'est trop dur parce que tu es vide dans ton âme. Tu n'es pas rempli de l'esprit. Parce que tu n'es pas rempli par la parole de Dieu et la doctrine. Tu as oublié depuis longtemps de penser avec Dieu. Et tu es influencé, soit par l'école, par les émissions de télé, par les sitcoms, par... Montrez-moi, vous, un sitcom ou une émission de télé. Bon, j'en regarde aucune, moi je suis tranquille, mais si vous en trouvez une, montrez-la-moi, où les valeurs pieuses sont mises à l'honneur dans notre pays. Trouvez-moi une. où on ne parle ni d'homosexualité, mais on parle de la fidélité d'un homme, où on parle pas, on ne promet pas l'adultère, où on va montrer que le divorce n'a pas de sens et qu'il vaut mieux rester unis pour le bien des enfants. Montrez-moi des émissions ou des films comme ça. Il y en a beaucoup ? Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais si mon âme est vide et que je regarde ces choses-là, je remplis mon âme avec toutes ces ordures et ces poubelles. Et au bout d'un moment, ma vie devient quelque chose qui est impie aux yeux de Dieu. J'aimerais qu'on lise, et vous allez voir un peu le processus qui peut se passer dans l'âme. Si plus rien ne distingue les païens des croyants, notre foi est vaine, on est d'accord. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, et je rappelle que ça a été écrit pour notre instruction, prenons un passage de Lévitique chapitre 18. Vous allez voir, c'est très instructif. Lévitique chapitre 18, et vous allez voir aussi l'association d'idées qu'il y a dans ce passage. C'est étonnant par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Lévitique, chapitre 18, versets 19 à 23. « Tu ne t'approcheras pas d'une femme rendue impure par sa souillure menstruelle, pour exposer sa nudité. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton compatriote. Tu te rendras impur avec elle. Tu te rendrais, pardon, impur avec elle. » Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer au Molech ou au Moloch, selon les traductions. Tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Donc là, vous voyez encore une fois la jalousie de Dieu. C'est pas Moloch, c'est moi le Seigneur. Je rappelle une chose, un Moloch, c'était une statue qui était un sous-dieu, en fait, d'un autre dieu plus important. De Baal, en fait. Mais Moloch, donc c'était une statue de bronze qui était creuse à l'intérieur avec les bras en l'air. Et quand il y avait des sacrifices et un culte rendu à Moloch, à l'intérieur de la statue, on allumait un feu, ce qui fait qu'obligatoirement la statue, elle ne fondait pas, mais elle était brûlante, elle était chaude. Et la statue ayant les bras comme ça tendus, on déposait les enfants de l'adorateur. Donc l'adorateur amenait son propre enfant. Et l'enfant était déposé sur les bras de Moloch, et il était, pour être cru et simple, cuit à petit feu, jusqu'à ce qu'il meure. Et comme l'enfant criait, et ça durait de longues minutes, il y avait des tambours qui étaient battus par les prêtres très très forts, pour que les parents n'entendent pas le cri des enfants, qui étaient en train de mourir. Voilà ce que c'est que Moloch. C'est-à-dire, et quand on regarde le cheminement, vous avez Israël qui ne marche plus avec Dieu. Pourquoi ils ne marchent plus avec Dieu ? Parce qu'ils veulent obtenir ou vivre ce que leur ego réclame. Et pourquoi on adressait des sacrifices à Moloch ou à d'autres Astartés, etc. ? C'était pour avoir une vie meilleure, une meilleure récolte. Éviter telle ou telle calamité, éviter telle ou telle maladie. Mais les calamités, les maladies et les récoltes pour qui ? Pour les parents. Et les parents étaient prêts à sacrifier leurs propres enfants pour pouvoir obtenir une bénédiction. C'est-à-dire que la notion de sacrifice pour les enfants n'existait pas. C'était le sacrifice pour les idoles, et à ce moment-là, on sacrifiait les enfants. Donc l'amour était retiré, parce que l'amour, c'est on se sacrifie pour les autres. Jésus-Christ a accepté de se sacrifier et de souffrir pour nous, par amour pour nous. Une femme, quand elle enfante, alors maintenant il y a la péridurale, mais elle accepte toute la souffrance dans son corps d'une manière dont on ne peut pas imaginer, surtout nous en tant qu'hommes, on ne peut pas imaginer, mais pour pouvoir donner la vie, pour pouvoir donner la vie à un enfant. Et donc c'est un amour qui se sacrifie, qui accepte la douleur. Mais là, c'était les peuples qui ne voulaient surtout pas souffrir, et ils voulaient obtenir pour eux une bénédiction, et pour ça, ils étaient prêts à sacrifier des enfants. Mais on peut se poser la question, est-ce que dans notre société, on ne fait pas la même chose ? Est-ce qu'on ne sacrifie pas des embryons, des fœtus, et voire bientôt, dans une loi qui est en train de passer, sans doute, ou à 9 mois, parce qu'une personne sera psychologiquement déstabilisée par la naissance de son enfant, on tuera l'enfant juste avant qu'il naisse. 9 mois. Alors, soi-disant, il y aura un conseil de, entre guillemets, médecins psychiatres qui regarderont. Mais est-ce que c'est pas sacrifier les enfants au profit du bonheur des adultes ? Où est l'amour qui se sacrifie ? Il n'existe plus. Et quelle est la société qui peut permettre ça? La nôtre. La nôtre. Mais c'est pas nouveau. L'avortement existe depuis des années. Le divorce existe depuis des années, où des enfants souffrent énormément à cause de l'abandon dont ils se sentent l'objet, où des enfants pensent d'ailleurs que c'est à cause d'eux que les parents se séparent. C'est souvent un mensonge, mais c'est l'interprétation que beaucoup d'enfants ont quand ils voient leurs parents se séparer en disant « c'est de ma faute s'ils se séparent, c'est de ma faute si papa et maman se disputent, c'est que je suis de trop ». Et on a des générations entières depuis 40 ans qui sont élevées par un enfant, par un parent unique. Est-ce qu'on ne sacrifie pas les enfants sur l'autel de nos biens matériels, de notre volonté propre, de notre plaisir sexuel, parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre? Et où l'État, la société, valide ça? Et après, en tant que chrétien, la question qu'on doit se poser, mais comment résister devant tout ça? La clé, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut. C'est pas essayer de lutter contre tel ou tel dogme, telle ou telle vérité, et d'avoir peur de ce qui nous entoure, c'est de dire « Seigneur, moi, pour que je ne sois pas contaminé, c'est pas de lutter contre ces choses, c'est d'aller vers toi. C'est de t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu et il n'y en a pas d'autre. C'est toi mon libérateur, c'est toi qui m'as délivré, c'est toi qui as versé ton sang, c'est toi qui es mort pour moi, et je ne permettrai pas. » Et là, on rentre dans les 6 autres commandements. De voler, de commettre adultère, de tuer. Non. Je vais aimer comme toi, tu m'as aimé. Et nous, chrétiens, nous avons besoin de bien conseiller nos cœurs et de se dire, hey, « Eh, Seigneur, si je ne veux pas être contaminé, la meilleure chose que j'ai à faire, il faut que tu m'aides à ce que tu sois mon seul vrai Dieu. Enlève toute idole dans ma vie. Enlève tout ce qui peut m'empêcher de m'approcher de toi. » Et donc c'est pour ça qu'au verset 21, donc tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer au Molech, tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis le Seigneur, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Là ça nous parle de l'homosexualité. C'est une abomination. Voilà ce que Dieu dit de l'homosexualité. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec aucune bête. Ça s'appelle la zoophilie. Et on sait que c'est encore pratiqué de nos jours. De toute façon, il y a une progression dans le mal. Il y a l'adultère, où là, je suis tenté, je convoite une relation sexuelle, mais qui est naturelle. Ensuite, vous avez l'homosexualité, je convoite une relation sexuelle qui n'est plus naturelle. Mais c'est encore un être humain. Et la troisième, c'est avec une bête. Voilà la progression. Ensuite, et si Dieu en parle dans sa parole, c'est que ça existe, même si ça vous paraît improbable. Et voilà ce que c'est que de sacrifier ses enfants à Moloch. Voilà ce que c'est que d'abandonner le seul vrai Dieu. C'est qu'on en fait, on en vient à faire n'importe quoi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu te rendrais impur avec elle. Une femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une perversion. Donc voilà un petit peu ce que Dieu était en train de dire à son peuple. C'est « adorez-moi, n'adorez pas Moloch » et sous-entendu, si vous adorez d'autres divinités, il y aura des comportements qui seront le résultat de cette adoration. Si je suis matérialiste, il y aura des résultats. Si mon idole c'est l'argent, il y aura des résultats dans ma vie. Si mon idole c'est le sexe, il y aura des résultats. Vous pouvez prendre la musique, si la musique est mon idole, il y aura des résultats. Ça peut avoir impacté ma vie de famille. Combien j'ai vu de gens qui sont vautrés dans la musique, mais d'une mauvaise manière, et qui du coup ont une vie, je parle même pas de la perversion de l'existence, mais rien de construit, des relations avec les femmes, là je parle beaucoup d'hommes qui étaient musiciens, qui en fait n'avaient pas de vie stable, parce que la musique était tout. La musique était tout. C'était le fondement de leur vie, c'était pas la personne qui était en face d'eux. C'est un choix, mais c'est pas le choix que Dieu veut. Dieu veut une adoration avec lui qui engendre l'accomplissement des 6 autres commandements. Et non seulement ça va faire du bien aux autres, mais ça va nous garder en paix avec Dieu. Vous savez, encore une fois, on n'est pas dans les statuts de Moloch. Alors, je sais que peut-être certains d'entre vous ont commis ces péchés. Nous sommes dans un pays qui ne vous condamne pas, même si Dieu condamne ces pratiques. Et c'est une grâce qui vous est offerte. Vous avez pu vous repentir de ça et vous n'avez plus à porter la culpabilité de ça parce que Christ est mort pour vos péchés, il a lavé tous vos péchés, tous. Il n'y a pas un péché que vous ayez pu commettre où Dieu n'a pas payé le prix. Parce que Dieu est votre libérateur. Parce que Dieu est celui qui vous délivre de l'esclavage du péché. Donc si ça a été le cas pour vous, ne vous culpabilisez pas par rapport à ce que je suis en train de dire. La seule chose, c'est que si vous confessez vos péchés, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le message. Vous êtes d'accord avec ce que la Bible dit. Et encore une fois, aujourd'hui, on ne sacrifie pas des enfants sur Moloch, mais on sacrifie des fœtus qui sont arrachés aux utérus de leur mère. C'est des cris qui ne font pas beaucoup de bruit et qu'on jette dans une poubelle. Mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Et vous savez, ça me rappelle, j'ai fait des recherches un petit peu, aux États-Unis, vous avez une tradition, une fois par an, même s'il y a la séparation de l'Église et de l'État, mais le président, quel qu'il soit, fait une fois par an un breakfast de prière. Enfin, c'est une journée un peu œcuménique, hein, il y a toutes les religions, et puis il y a un petit déjeuner, et puis les gens parlent, etc. Et un jour, il y a Mère Teresa qui avait été invitée, c'est dans les années 90, et cette petite femme chétive, qui avait l'air de rien, qui était toute fripée et qui avait plus beaucoup d'années à vivre, elle a quand même profité de l'ouverture qui lui était proposée de parler. Elle était invitée un jour à ce petit déjeuner. Et donc il y avait le président des États-Unis, son épouse et tous les politiciens. Et d'abord, elle s'est pas assise à la table des petits déjeuners avec les autres. On savait pas où elle était. Mais en fait, au moment de parler, elle était cachée derrière le rideau, et puis elle est sortie du rideau et elle a prononcé son discours. Et regardez ce qu'elle a dit. Je sens que le plus grand destructeur de paix aujourd'hui est l'avortement, puisque cela constitue une guerre contre l'enfant, une mise à mort de l'enfant innocent, un meurtre commis par la mère elle-même. Et si l'on accepte qu'une mère puisse même tuer son propre enfant, comment pouvons-nous dire à d'autres personnes de ne pas se tuer les uns les autres? Comment persuader une femme de ne pas se faire avorter? Comme toujours, nous devons la persuader avec amour et nous rappeler que l'amour, c'est pouvoir donner jusqu'à ce que l'on ressente la douleur. Jésus a même donné sa vie pour nous aimer. Donc, la mère qui pense à l'avortement devrait être aidée pour pouvoir aimer, soit de donner jusqu'à ce que cela heurte ses plans ou son temps libre pour respecter la vie de son enfant. Le père de son enfant, peu importe qui il est, doit aussi donner jusqu'à ce que ça soit douloureux. Par l'avortement, la mère n'apprend pas à aimer, mais va même jusqu'à tuer son propre enfant pour résoudre ses problèmes. Et par l'avortement, le père se fait dire qu'il n'a pas à prendre du tout de responsabilité face à l'enfant qu'il a conçu dans ce monde. Ce père est susceptible de mettre d'autres femmes dans de mêmes difficultés. Donc l'avortement mène à davantage d'avortements. Tout pays qui accepte l'avortement n'enseigne pas à son peuple d'aimer, mais d'utiliser toute violence pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. C'est pourquoi le plus grand destructeur d'amour et de paix est l'avortement. Je ne vous dis pas le silence qui a régné après ce discours. Mais vous savez, nous avons besoin d'une voix prophétique dans l'Église. Aimer, c'est pas faire du bisounours. Aimer, c'est aussi annoncer la vérité. Combien de gens souffrent à cause du péché que l'on tolère dans une nation? Combien de gens souffrent à cause du péché que des chrétiens tolèrent, ou des chrétiens changent la doctrine, ou des chrétiens acceptent n'importe quel mode de vie en pensant que c'est pareil et c'est de l'amour? Combien de souffrances sont acceptées parmi les individus? Tout ça parce qu'on s'éloigne de Dieu. Vous savez, et m'expliquez pas comment ça fonctionne, c'est marqué dans la Bible, mais je n'ai pas d'équation mathématique à vous proposer. Mais s'agissant du péché, vous savez que certains péchés pratiqués par certaines personnes constituent en fait un jugement que Dieu a prononcé sur ces gens. Que ces gens pêchent parce qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Et je vais vous montrer comment. pas comment, mais pourquoi ce que je dis est vrai. C'est dans Romains chapitre 1. Chapitre 1, verset 22 et suivant. Romains chapitre 1, verset 22 et suivant. Dieu parle de la nature, Paul parle de l'humanité tout entière, parce que dans Romains chapitre 1, 2 et début chapitre 3, alors qu'ensuite Paul va annoncer le plan du salut, il explique le problème du péché dans le monde. Donc il parle des païens, il parle ensuite des religieux et il parle des juifs. Enfin, pas les religieux, les moralistes. Donc les païens, les moralistes et le peuple d'Israël. Et il montre que ces trois groupes d'individus sont pécheurs. De là, Romains 3, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et donc là, c'est le groupe qui parle des païens. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce groupe? Verset 22. Et n'oublie pas qu'on est en train de rentrer dans une civilisation néo-païenne aujourd'hui. On n'est plus dans le post-modernisme. On rentre dans une civilisation néo-païenne. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au verset 22? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Donc vous voyez le fait d'adorer un Dieu unique. La gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Vous voyez ce qu'on lit là? Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on idéalise l'homme. La créature au lieu du Créateur. Et qu'est-ce que cela donne? Verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Donc on voit là que le péché d'homosexualité est le résultat d'un jugement de Dieu contre des personnes ou une génération qui s'est détournée du Dieu vivant et qui a idéalisé l'homme. Et Dieu a dit, bah, si tu veux idéaliser la nature humaine, ça va devenir le seul objet de tes pensées. Ça va devenir ton idole. Et on continue. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis, alors après c'est les valeurs morales, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Quand vous regardez aujourd'hui les émissions, les programmes, vous pensez qu'il y a beaucoup de miséricorde? Est-ce qu'il y a beaucoup de miséricorde? Est-ce que les gens sont si tolérants que ça, dans la manière dont ils se parlent? Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Faisons attention à notre âme. Quelqu'un qui est en paix avec Dieu n'est pas en guerre contre les autres. Il n'a simplement pas les mêmes convictions, mais il reste en paix. On n'a rien à défendre. C'est Dieu qui défend. Nous avons qu'à honorer Dieu, le Dieu vivant, peu importe les conséquences. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on a lu tout à l'heure le passage de Lévitique, il est parlé de l'adultère et du divorce, il est parlé de l'homosexualité, de la zoophilie, c'est-à-dire que ce n'est pas être homophobe ou zoophobe ou être contre les personnes divorcées, c'est de dire que ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Et dans l'Église, nous avons le devoir de citer ces péchés. Et de citer aussi et de rendre gloire à celui qui est la solution, qui peut nous délivrer de ces péchés. Et qui peut, du coup, amener les gens à être une lumière pour ce monde. Alors évidemment, ce discours, il est difficile à tenir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour garder les convictions. Parce que Le royaume des ténèbres avance des fois à grands pas, des fois à petits pas. Et donc, faut pas être dupe. Est-ce que lorsque les temps seront plus difficiles, on affichera encore nos convictions? J'aimerais simplement vous citer, et j'ai vérifié plusieurs fois pour être sûr de ma source, et donc c'est une ministre actuelle, une ministre déléguée, qui a fait une interview le 25 mars sur LCI à 20h39. Et vous savez, il y a une loi qui va passer, je ne sais pas dans quel terme, sur la loi contre l'intégrisme, enfin voilà, il y a toute une loi là-dessus. Donc la liberté religieuse va en prendre un coup, mes amis, parce que tout le monde est mis dans le même bain. Et il va falloir, pour certains, signer une charte de la laïcité républicaine, etc. Et regardez ce que cette personne qui nous gouverne actuellement, qui à ses heures perdues d'ailleurs écrit des ouvrages libertins sous un autre nom, hein, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, cette personne, mais moi j'ai le droit de penser ce que je veux aussi. Et regardez ce qu'elle écrit. Pourquoi on a fait cette charte? Parce qu'elle est engageante, c'est-à-dire qu'on doit s'engager. L'idée, ce n'est pas de mettre sa signature, c'est de dire comment on s'engage pour l'égalité femmes-hommes, pour la lutte contre l'homophobie. Ça veut dire que, est-ce que dans les prêches, on considérera que deux hommes ont le droit de s'aimer, de se marier, que deux femmes ont le droit de s'aimer, de se marier, comme le disent les lois de la République? Voilà ce que cette femme a dit. C'est-à-dire que pour elle, adhérer aux valeurs de la République, c'est prêcher ce qu'ils ont envie qu'on prêche. Ben, mes amis, si je peux plus prêcher, soit je vais en prison, soit vous me virez. Mais moi, je continuerai d'annoncer la vérité, quoi qu'il arrive. Moi, je suis libre. Je suis absolument libre. Parce que je dois adorer mon Dieu et lui seul. Et c'est pas en changeant la doctrine et en priant pour bénir une union homosexuelle que la vraie paix sera annoncée sur la terre. C'est absolument faux. Demandez à ceux qui attendent le jugement du grand trône blanc s'ils sont en paix avec le compromis. Pensez à l'homme riche devant Lazare qui a soif et qui dit « je peux avoir un peu d'eau ». Est-ce qu'on peut envoyer des prophètes prêcher, annoncer l'évangile à mes frères et sœurs, à ma famille? Cet homme-là, c'est la plus grande prière qu'on puisse voir dans la Bible au profit des perdus. C'est un païen, c'est un incroyant qui a prononcé cette prière. Mais c'était trop tard. Qu'est-ce qu'Abraham répond? Ils ont la Bible, ils ont les prophètes, la loi et les prophètes, ça leur suffit. Et quelle est notre délivrance pour nous? C'est la loi et les prophètes. C'est la parole de Dieu. Comment on va garder nos convictions? Par la loi et la parole de Dieu. Par la Bible, par la vérité. L'amour de Dieu, mais le vrai amour. Et donc du coup, les autres peuvent s'opposer à moi, je n'aurai pas peur d'eux, je leur ferai pas de mal, parce que mon Dieu dit qu'on ne doit pas se défendre par l'épée. Même si on va nous associer, peut-être, à des intégristes, comme l'a fait cette même personne il y a quelques années, qui associait la manif pour tous aux intégristes islamistes. La même personne. Donc tout ça pour vous dire que nous avons à vivre notre foi. Et on n'en est pas, vous savez, à savoir si on doit porter un masque, si c'est 19h ou 20h le couvre-feu. C'est pas le sujet du jour pour Dieu en ce moment, je peux vous le garantir. Il y a d'autres lois qui sont en train de passer et où les chrétiens doivent prier, se lever, avoir des convictions, avoir des arguments, être remplis par la vie de Dieu, la fougue de Dieu, en disant « Notre Dieu a en horreur le péché ». Il a payé le prix. Et là, je réalise que moi-même, j'ai été délivré de tout ça. Je suis pas mieux que ces gens qui professent ces idioties. Je suis pas mieux. Mais merci Seigneur, j'ai été délivré. C'est toi mon libérateur. Ce sera pas mon petit mode de vie, mes petits choix, mes petites pensées, mon petit ego qui va me délivrer de toutes les situations d'existence. C'est toi qui vas me garder. C'est toi qui vas me garder dans la foi. C'est toi qui vas me conduire en toute sagesse. C'est toi qui vas me être, qui est la lumière du monde. Seigneur, c'est toi. Tu adoreras ton Dieu et lui seul. Et ça, c'est un acte d'amour. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On pourrait transposer en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir des griffes du péché, qui t'a fait sortir de l'enfer qui t'attendait, qui t'a fait sortir de ton, peut-être de ta dépression, de ta solitude, de ta vanité de vie, de te dire pourquoi j'existe. Il t'a fait sortir de ça et continue de servir celui qui t'a délivré. C'est, j'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le problème, c'est pas de savoir si c'est autorisé ou interdit. Le problème, c'est est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Et donc, le premier des 10 commandements, vous voyez, c'est de nous enjoindre à reconnaître l'exclusivité de Dieu dans notre vie. Vous savez, j'ai regardé dans le Nouveau Testament le comportement de Jésus à travers juste deux petits mots. Suis-moi. Combien de fois il a dit « suis-moi » ? En Matthieu 8, 22, cette personne-là qui vient le voir, et Jésus il lui dit « suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts ». Il va voir Lévi en Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis en lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « suis-moi » et cet homme se leva et le suivit. Matthieu 19, 21. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, matérialisme, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Luc 9, 59, là c'est le même verset en parallèle en fait, laisse-moi ensevelir mon père, suis-moi, alors que Jésus lui a dit suis-moi. Philippe aussi a entendu cette phrase, en Jean 1, 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Jean 21, 19, là, Pierre est apôtre déjà, hein. Je veux dire, c'est après la résurrection, on peut dire que Pierre, il a suivi Jésus. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais en tout cas, il a suivi Jésus. Mais Jésus réitère cet engagement. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». En Jean 21, 22, alors que Pierre commence à se comparer avec Jean, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Voyez, cet encouragement de Dieu, l'encouragement à Israël envers les chrétiens, suivez-moi, ne suivez pas les autres voies, ne suivez pas les autres conseils, mais par contre, restez pas, neutre ou passif, suivez Dieu dans votre vie, suivez Dieu. Pour l'adorer, c'est le meilleur moyen de se préserver. Vous savez, je pensais à ce verset dans Matthieu 28, 20. Alors, il s'adresse à ses apôtres, mais il dit « Enseignez-leur à observer, donc faites des disciples les nations, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et regardez la promesse. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Moi, je ne sais pas si j'y serai à la fin du monde. Et eux, ils n'ont pas été jusqu'à la fin du monde. Mais là, du coup, j'ai renversé l'hypothèse. J'ai dit « Mais Seigneur, si toi tu me fais la promesse d'être avec moi jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire peut-être au-delà de mon existence terrestre, est-ce que moi je peux te dire je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie ? Je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur de la pression ambiante. Je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Et on sera peut-être un jour comme ces apôtres qui étaient contents d'avoir été fouettés pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce passage de livre des Actes, moi, il m'a toujours pas perturbé, mais on est perplexe aujourd'hui, dans une civilisation douillette qui n'a pas connu la guerre. Et eux, ils étaient fiers d'avoir été fouettés. Donc, n'ayons pas peur des menaces. Peut-être qu'on perdra notre travail, peut-être qu'on dira du mal de nous sur les réseaux sociaux. Et alors, on aura notre intégrité devant Dieu. Et on saura par qui on a été appelé, par qui on est connu et comment on va être jugé. Et ça m'amène au dernier verset, et je continuerai sur le deuxième commandement la prochaine, mercredi ou dimanche, je sais pas comment le Seigneur conduira les choses, mais en Jean 4, 23, Il est écrit ceci, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Soyons des adorateurs que le Père commande, ne mettons pas la parole de Dieu sous le boisseau, ne mettons pas nos dons sous le boisseau, ne mettons pas l'Église sous le boisseau en catimini. Ah, faut pas parler de ça, ah, ça va déranger les gens. Mais comment pouvez-vous annoncer un sauveur si le péché n'existe pas? Ils vont être sauvés de quoi? La conviction, on est convaincu de péché, de justice et de jugement, d'accord? Normalement, avant d'accepter Christ. Mais comment on est convaincu? Pas par l'enseignement à l'école, on est convaincu par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, avec amour, avec sagesse, avec doigté, en bonne saison, soyez rusés comme des renards, dit Jésus. Mais annonçons la vérité pour que les gens soient convaincus, si possible, qu'il y a une espérance. Qu'il y a une espérance. Qu'il y a une autre manière de vivre. Une manière qui est vaine, une manière qui est en fait le résultat d'un jugement de Dieu, et qui permet d'être délivré de tout ça et de vivre vraiment pour l'amour. Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse.